frère, il enseignait assis. Hein. Voilà.
Mon frères et sœurs, c'est avec grande joie que je vous retrouve ce matin. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, vous n'aurez pas de jolies petites images sur l'écran. Ben non, parce que j'ai une panne d'internet depuis une semaine et j'ai pas pu trouver les petites images comme ça pour vous faire plaisir. On va faire une prédication comme au bon vieux temps. Et vous allez voir, ça va très bien aussi. Enfin, j'espère. Mais vous savez, une panne d'internet, c'est embêtant, évidemment. On ne sait jamais s'il n'y a pas des messages urgents, mais ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de ne plus avoir le souci de regarder ses mails et tout, et de pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Enfin, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Alors, loin d'internet, je vous propose de rencontrer un personnage toujours aussi étonnant ce matin et qui nous parle aussi de repentance dans la suite de ce que Cyril nous a dit ce matin. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles, si vous en avez une sur les genoux, dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 1 à 6. Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. L'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Iturée et Traconitide, et Lysanias tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce de Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Comme il est écrit au livre des oracles du prophète Ésaïe, une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous verront le salut de Dieu. Amen. » Amen. Alors, j'avais pas Internet, mais je peux quand même écouter les informations. Et j'ai entendu cette semaine, enfin déjà, ça fait un peu plus qu'une semaine, qu'on nous parle d'un nouveau variant du coronavirus, le variant Omicron, pas si micron que ça d'ailleurs, puisqu'il est encore plus contagieux que les précédents. Puis nous avons eu dans notre église deux malheureux victimes de ce méchant virus qui nous montre qu'il rôde encore parmi nous. Pensez-vous à prier pour la fin de cette épidémie? Pensez-vous à prier particulièrement aussi pour les plus pauvres sur notre planète qui en sont les principales victimes, comme toujours. Et si vous le faites, frères et sœurs, constatez-vous l'exaucement de vos prières? Bon, probablement pas clairement. En tout cas, pas pour l'instant. Eh bien, vous voyez, nous sommes d'une certaine manière dans la situation du peuple de Dieu à l'orée de la venue du Sauveur. Les prophètes s'étaient tus. Depuis longtemps, il n'y avait plus de prophètes. La révélation semblait fermée. L'oppression et la misère régnaient. Les croyants fidèles priaient, bien sûr, et rien ne se passait, apparemment du moins. L'Éternel donnait l'impression d'avoir oublié son peuple, ses promesses. « Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. » Ça, c'est le psaume 90. Voilà ce qu'imploraient les Juifs pieux. « Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?» Alors, Luc nous montre ce matin qu'au milieu de cette histoire, sous l'occupation romaine, indiquée clairement avec l'empereur Tibère, et le gouverneur Ponce Pilate. Sous le régime despotique des tyrans Hérode, Philippe, Lysanias, eh bien Dieu est intervenu. À son intervention n'a pas fait la une des journaux. Son intervention n'a pas saturé les réseaux sociaux de l'époque. Elle a commencé à se manifester par le surgissement d'un prophète solitaire, Jean le Baptiste, dans le désert en plus. Alors nous avons besoin, par les temps qui courent, de méditer cet événement. La prédication de Jean, suivie de la manifestation de Jésus, petitement, humblement, presque secrètement, Dieu a agi. Oui, il a agi au cœur de l'histoire humaine. Et l'Évangile nous promet donc que Dieu agit encore aujourd'hui. Le monde ne le voit pas. Nous-mêmes, nous ne le voyons pas. Peut-être même ne le croyons-nous pas. Alors, renouvelons notre foi à l'écoute de la parole de Dieu. Entrons dans l'espérance incroyable que Jean le Baptiste est venu renouveler. D'abord dans une continuité. Jean n'est pas complètement original, heureusement d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois, heureusement, que Dieu va intervenir dans l'histoire, même si ce sera, nous le savons maintenant, son intervention la plus décisive. Le Baptiste s'inscrit dans une longue lignée qui, au cours des siècles, avait rappelé au peuple juif la fidélité de l'Éternel. Jean est bien placé pour remplir cette mission. Il est issu d'une famille de prêtres. Il aurait pu probablement être prêtre lui aussi. Son père, Zacharie, descendait du premier prêtre juif, Aaron, le frère de Moïse. Luc nous dit tout ça au chapitre 1. Et Zacharie offrait l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur quand il a appris que sa femme enfanterait un fils qui serait grand devant le Seigneur. Ce fils sera Jean le Baptiste. Jean appartient donc à cette dynastie de serviteurs de Dieu chargé de rendre le culte dans le temple, d'ouvrir à son peuple un accès à l'Éternel, un accès vers Dieu. Mais Jean, fils de Zacharie, n'officie pas dans le temple de Jérusalem. Au contraire, sa voix crie dans le désert. Alors, par son allure, par sa dégaine aussi, Jean le Baptiste rappelle les anciens prophètes, particulièrement Élie. Et par sa présence dans le désert, il prend à son compte leur message. Luc cite presque textuellement, pas tout à fait, mais presque textuellement, le chapitre 40, enfin quelques versets, du chapitre 40 du prophète Ésaïe. Une voix proclame « Dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur. » Niveler dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Un chemin dans le désert. Ça vous rappelle rien ? Chemin dans le désert. Ça évoquait l'Exode, la longue marche des Israélites après la sortie d'Égypte. Alors, un nouvel Exode, une nouvelle libération, un nouveau salut sont maintenant en vue. Ésaïe, il y a bien longtemps, l'avait annoncé, et Jean est cette voix dans le désert. Prêtre et prophète, Jean se cache, curieusement, dans la solitude, dans la désolation. Mais par lui s'annonce le salut de Dieu. Dieu n'interviendra pas à travers l'empereur Tibère, Dieu n'interviendra pas avec le roi Hérode. Il n'interviendra même pas, en tout cas pas directement, par les prêtres juifs, Anne et Caïphe. Non, c'est dans le dénuement que se prépare le chemin du Seigneur, en rupture avec un passé trop chargé de violence et d'hypocrisie. Je vous ai parlé de continuité, je vous parle donc maintenant de rupture. Et effectivement, bien que prêtre et prophète, Jean marque une rupture radicale. Il choisit le désert et non la ville sainte. Il porte en lui les paroles d'Ésaïe. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Maintenant, il convient de passer le chasse-neige, de faire place nette, d'enlever les obstacles qui barraient l'accès auprès de Dieu. Nous sommes probablement, quand Jean prêche dans le désert, en l'an 27 de notre ère. Quelques années plus tard, en 70, Jérusalem sera investie par les légions romaines et le temple, oui, le temple de Dieu, sera incendié. Le culte officiel, avec ses sacrifices, disparaîtra. L'heure est grave. Il est bien temps d'ouvrir d'autres chemins. Jean sait que malgré toutes les apparences contraires, Dieu va venir sauver son peuple. La bouche du Seigneur va parler. Mieux encore, et ça nous le savons maintenant, comme le dit l'évangile de Jean l'évangéliste, celui-là, sa parole se fera chair. Elle habitera parmi nous et nous verrons sa gloire. Et nous la verrons comme nul ne l'a jamais contemplée auparavant. Jean dans le désert, dans la région du Jourdain, annonce un renouvellement absolu. Toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés et tous verront le salut de Dieu. Alors, frères et sœurs, ne cherchons plus le salut dans les palais des rois ou des présidents, dans les armées, dans les lois, dans la richesse, dans la multiplication des rites. Dieu nous rejoint dans le dénuement. Il n'a plus besoin d'un roi David, d'un prophète Jérémie ou d'un prêtre Esdras. Il n'a plus besoin d'intermédiaires. Il s'avance dans la personne de Jésus de Nazareth. Et c'est en lui seul que tous trouveront le salut. Jésus sera, c'est ce que nous dit Paul bien plus tard, Jésus sera le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et Jean le manifeste déjà. Jean n'a besoin que de Jésus. Christ seul est son maître. Jean ne se juge pas digne de délier la lanière de ses sandales. Il faut se préparer à l'accueillir. La rupture est totale. Le renouveau est radical. C'est vers lui, vers Jésus, qu'il faut aller directement et sans tergiverser. Rendez droit ses sentiers. L'Évangile nous parle maintenant de conversion. Quels sont ces sentiers? Ces sentiers peuvent être en tout cas ceux de notre cœur. Jésus n'a pas besoin, comme les monarques de l'Antiquité, que l'on prépare de vastes routes pour célébrer le faste de sa venue. Il n'a pas besoin, comme les monarques d'aujourd'hui, que l'on déroule devant lui un tapis rouge. Il nous réclame. Il nous réclame, c'est tout. C'est nous qu'il réclame pour se manifester au monde. Il est venu dans notre humanité. Il vient encore dans nos humanités. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas forcément facile d'intégrer cette vérité. Il faut sortir des sentiers battus, Ce n'est pas facile, quand on porte de grands rêves, de changer de regard pour observer ce qui est petit, presque imperceptible. Ce n'est pas facile quand on voudrait voir Dieu agir par des éclairs fulgurants ou des guérisons spectaculaires, d'accepter de le rencontrer dans le désert, dans la prédication d'un prophète crasseux ou dans la personne d'un crucifié. Ce n'est pas facile. Et c'est à ce regard pourtant que Jean invitait ses compatriotes. Et comme par hasard, ce sont les disciples de Jean qui, les premiers, pourront un peu plus tard se réjouir d'avoir trouvé le Messie. On voit ça dans l'évangile de Jean. Alors, frères et sœurs, pour que nos cœurs puissent à leur tour accueillir le Messie, écoutons la voix de Jean. De Jean qui proclamait un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Alors il est relativement facile de s'imaginer la scène. Vous savez bien, si j'avais pu mettre des petites images, je vous en aurais mis. Beaucoup de peintres, de sculpteurs ou de cinéastes l'ont représenté, cette scène de Jean, les pieds dans l'eau, en train de baptiser les foules qui venaient à lui. Mais il est beaucoup moins facile de vivre cette scène et de la vivre aujourd'hui. En effet, les paroles du précurseur gardent toute leur actualité. Non pas forcément le rite de son baptême, parce que vous savez très bien, Sarah le sait bien, nous l'a montré il n'y a pas si longtemps, que désormais, le baptême de Jean a laissé la place au baptême chrétien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui nous plonge dans notre salut, acquis dans la mort et la résurrection de Jésus. Mais il reste son appel à la conversion. Oui, Luc parle de conversion. Bon, même si le terme, et selon les Bibles, vous verrez, ça diffère un petit peu, pourrait plutôt être traduit par repentance. Littéralement, en grec, ce mot « métanoïa » implique un changement de regard, un changement de sentiment, un changement d'idée, peut-être même un changement de vie. Il n'appelle pas les gens à s'apesantir sur leur passé, à pleurer, à regretter leur passé, mais à modifier leur être intérieur. Et là, nous voyons dans ce texte qu'il s'agit de le modifier radicalement. Ils ne le feront pas pour obtenir le salut. Luc précise que tous, toute chair, tous verront le salut de Dieu. Et il décrit dans son évangile comment Jésus est venu à la rencontre de tous, même des plus pécheurs. Mais ces gens doivent se convertir pour être capables d'accueillir ce salut. Ce salut qui vient en la personne de Jésus, capable de le reconnaître, capable d'aller à lui et de le suivre, de ne pas rejeter celui que le maître de la vigne a envoyé. Nous avons là une indication très intéressante qui nous concerne directement. Si nous ne sommes pas capables de discerner aujourd'hui le salut du Seigneur, c'est probablement, peut-être, parce que nous n'avons pas assez préparé notre cœur. Peut-être ne voulons-nous pas, en fait, donner à l'Esprit du Seigneur la place qu'il attend chez nous. Paul le dit, l'apôtre Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Oui, c'est là, dans nos cœurs, qu'il entre aujourd'hui. C'est là qu'il trouve une crèche pour demeurer. Or, c'est bien lui qui vient. Lui, Jésus. Lui, le Dieu vivant dans la personne de son Fils. Lui qui prend l'initiative de la rencontre et même de la réconciliation. Jean d'une certaine manière, et l'évangile de Luc nous le fait sentir par les termes employés, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, Jean annonce déjà l'évangile de Jésus. Si nous ne savons pas comment changer notre cœur, si nous sommes désespérés par notre culpabilité, par les erreurs dont notre existence est remplie, eh bien, il a pour nous un joyeux message. Il baptise pour le pardon des péchés. Pour, en fait, le mot veut dire en vue du pardon des péchés. Parce que ce n'est pas Jean, ni son baptême, qui pardonne les péchés. Mais son baptême ouvre un chemin pour rencontrer celui qui enlèvera le péché du monde. Jean n'était pas la lumière, nous dit l'évangile de Jean, de l'autre Jean. Jean n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière, à celui qui est la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Jésus, c'est lui qui éclaire notre nuit. C'est le sens, finalement, de la fête de Noël dans cette période de l'année. Rappelons-nous comment l'œuvre de Dieu s'est manifestée dans le monde. Les bergers, puis des pauvres pécheurs de Galilée, puis les lépreux, les possédés et les aveugles, puis les prostituées et les publicains, puis même le brigand sur la croix. Pour tout cela, frères et sœurs, le pardon des péchés est devenu une réalité qui a complètement bouleversé leur existence. Une réalité qui a changé leur monde, et qui a contribué par là même à changer le monde. Comme Cyril, moi. Tout commence par le miracle de Noël. C'est là que commence l'intervention décisive de Dieu dans l'histoire. Jean savait bien qu'il n'y était pour rien. Il annonçait seulement que l'enfant de Noël, enfin il ne l'appelait pas encore comme ça bien entendu, que l'enfant de Noël allait se manifester pour le pardon des péchés et pour que tous voient le salut de Dieu. La conversion des cœurs allait pouvoir s'opérer dans la rencontre étonnante avec Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, notre vie changera quand nous saisirons la main que Dieu nous tend, cette main que Dieu nous tend en Jésus, notre frère. Alors, est-il encore possible de penser que Dieu n'intervient pas? Il est intervenu dans le passé. La nuit de Noël, il est venu en personne épouser notre humanité pour la sauver. Mais on pourrait dire, oui, la nuit de Noël, bien gentil, mais enfin, ça fait quand même quelques années. Hein ? Alors aujourd'hui, son action se limiterait-elle seulement à cette nuit de Bethléem, il y a 2000, à peu près 2000 ans ? Ou bien son action se limiterait-elle seulement à la croix du Golgotha ? Se limiterait-elle seulement à une courte visite ? Ou bien seulement au pardon de nos péchés ? Là, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que le pardon des péchés n'est pas, dans le Nouveau Testament, une simple déclaration d'absolution. Allez, je te pardonne tes péchés, c'est fini, et tu peux t'en aller. Non, il s'agit, dans le Nouveau Testament, d'une réconciliation totale de l'homme pécheur avec son Créateur. Une réconciliation qui trouve son aboutissement dans la résurrection en Jésus et dans le don de son Esprit. Parce que nous sommes pardonnés, réconciliés, eh bien, il nous est possible de vivre maintenant, chaque jour, dans la présence de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'aller dans le temple de Jérusalem. D'ailleurs, il n'existe plus. Nous n'avons même pas besoin de nous rendre dans le désert. Oh, c'est bien de venir à la salle de culte de temps en temps quand même, hein, Cyril, c'est quand même important. Mais Jésus nous donne rendez-vous chez nous, dans notre humanité, où nous constaterons immédiatement les effets de sa présence, dans la joie qu'il fait jaillir de notre cœur, dans la paix que nous transmettrons autour de nous, même si ce n'est pas toujours facile, dans la foi et la prière que nous partagerons, comme ce matin, dans l'Église. La conversion à laquelle Jean appelait ce qu'il baptisait est un miracle, opéré chaque jour par l'Esprit de Jésus. Un miracle opéré chaque jour par l'Esprit de Jésus. En nous, autour de nous, dans nos communautés chrétiennes, Dieu travaille à changer le monde. Et il y a du boulot, mais il est là, il travaille avec nous. Paul, l'apôtre Paul, qui avait acquis une vive conscience de la présence avec lui tout au long de son ministère, de sa vie, de la présence avec lui du Christ ressuscité, Paul écrivait que les chrétiens sont devenus les collaborateurs de Dieu. 1 Corinthiens 3:9. Étrange expression. Les chrétiens sont devenus les collaborateurs de Dieu. Alors, frères et sœurs, acceptez-vous cette offre de collaboration? Si vous ne voyez pas Dieu agir, eh bien priez et rendez visible son œuvre dans le monde. Paul écrit aussi: autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, vivez en enfant de lumière. Amen.
Amen.
Nous prions. Oui, nous prions, Seigneur, parce que c'est toi qui nous invites à nous tourner vers toi. Parce que nous savons, dans la foi, nous avons l'assurance que tu es là présent, au milieu de nous, présent dans nos vies par ton esprit, et qu'avec nous, tu peux faire toutes choses nouvelles, tu peux faire de grandes choses, tu peux changer ce monde. Seigneur, nous aimerions bien sûr que tout changement se passe sans que nous ayons à remuer le petit doigt, ou sans que nous ayons à faire un pas vers toi ou à ta suite. Mais c'est toi qui nous appelles, en ce temps de l'Avent, à renouveler nos cœurs, à nous repentir, à nous convertir, Seigneur, pour te donner dans notre vie toute la place, Seigneur. Ou en tout cas, parce que nous sommes si faibles, la plus grande place possible, Seigneur. Alors nous t'implorons, Seigneur, viens toucher encore notre cœur. Viens nous laisser nourrir, abreuver par ta parole de vie, de salut, Seigneur. Et apprends-nous dans ce monde troublé, dans toutes les difficultés du quotidien, dans ce contexte de pandémie et d'angoisse partagée avec tous nos contemporains, Seigneur, à être des sources d'espérance, à être des foyers de lumière et de renouveau. Et nous pouvons le faire, Seigneur, en Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.
Amen.